Bonjour à tous. Je vous propose de prendre une lecture dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53. Donc, tu parlais tout à l'heure de ces hits, de ces passages qu'on connaît bien et dont on ne se lasse pas. Je crois que Ésaïe 53... On va prendre les versets 1 à 6. Ça fait partie de ces passages qui nous font du bien. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Et pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il n'y a pas beaucoup de passages de l'Ancien Testament qui annoncent l'Évangile de façon aussi claire. Parce que sans aucun doute, ce chapitre 53 du livre du prophète Ésaïe, c'est de Jésus qui nous parle. Et même d'ailleurs, beaucoup de commentaires juifs de ce texte interprètent ce passage comme concernant le Messie qui est annoncé. Et chaque mot qui est annoncé par le prophète, il correspond si précisément à la personne et à l'œuvre de Jésus, que finalement toute personne douée, disons, d'une intelligence normale, reconnaît que c'est bien Jésus et voit le parallèle. Et pourtant, il faut rappeler que ces textes ont été écrits 700 ans avant le sacrifice de Jésus. Et cette prédiction est tellement précise qu'aucun homme n'aurait pu en être l'auteur. Et ça, c'est une preuve indiscutable de l'inspiration de la Bible et aussi de la divinité de Jésus. Donc, l'enseignement qui ressort de ce verset, vous l'avez reconnu. Ça a déjà été bien évoqué juste avant. C'est que la libération de chacun provient de la souffrance par laquelle le serviteur s'est substitué à nous. Il ne souffre pas des péchés des gens, il souffre à la place des pécheurs. Il souffre pour eux, c'est grâce à cela qu'ils échappent aux conséquences de leurs péchés. La réconciliation avec Dieu redevient possible pour tous ceux qui se tournent vers Jésus et qui confessent leurs péchés. Leur nature pécheresse. Alors au passage, on peut remarquer dans les versets qu'on vient de lire, la concentration des mots, on va dire, les profs de français disent le champ sémantique, bon. La concentration de mots liés à la douleur, on peut reprendre souffrance, douleur, puni, frappé, humilié, blessé, brisé, meurtrissure. Jésus, il connaissait cette prophétie, donc écrite 700 ans avant lui. On peut comprendre, c'est pas forcément étonnant qu'il ait demandé à Dieu s'il voulait bien éloigner cette coupe de ses lèvres quand il était un petit peu avant dans le jardin de Gethsémané. Donc, au verset 4, on nous donne la raison de la souffrance. Il écrit « Il a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs, mais nous l'avons considéré comme frappé par Dieu, puni et humilié. » Ce qu'il explique là, Ésaïe, c'est que on a pensé au début que la souffrance du serviteur, c'était la conséquence de sa faute à lui et non la conséquence de nos péchés et notre guérison. La peine et la douleur, ce n'était pas finalement la sienne, mais les nôtres. Et c'est pour ça, finalement, et pour nous seulement, qu'il a souffert et qu'il est mort. Alors le « nous », on peut penser qu'il est utilisé par Ésaïe pour se référer à lui-même et au peuple d'Israël, au moment où il a écrit cette prophétie. La mort expiatrice de Jésus, c'est une vérité qui est tellement profonde que les théologiens, même 20 siècles après, n'ont pas fini. Pourtant, ça a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre et ça a fait beaucoup réfléchir les gens. Ils n'ont pas fini d'en sonder toute la profondeur et toutes les conséquences, même 20 siècles plus tard. Pensez-y, Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour exécuter la sentence pour nos péchés. Il y a eu quelques théories différentes à ce sujet, mais finalement, ce que la Bible enseigne, c'est que le cœur de ce mystère, c'est la substitution. La substitution d'un innocent pour porter le poids du péché de l'humanité. Et maintenant, je vais m'imaginer une chose, c'est pas de la science-fiction, pour ceux qui étaient là dimanche dernier. J'imagine que André ou Esther, mes enfants, dans quelques années, ou les deux d'ailleurs, fassent une grosse bêtise ou qu'ils soient vraiment insupportables. Alors, on les aura avertis plusieurs fois, mais ils auront quand même continué. Et un moment arrive où il faut les punir. Alors, généralement, le moment de punir ceux qu'on aime, c'est pas un moment agréable, même quand on sait que c'est bien mérité pourtant. Et alors, imaginez leur réaction si je les prends à part pour leur expliquer que je les aime très fort, mais là, à un moment, la punition doit être appliquée, la punition doit tomber. Et comme je les aime très fort, eh bien, je vais être puni à leur place. Et c'est moi qui vais dîner au pain sec et qui vais passer la soirée dans ma chambre à leur place. On pourrait même imaginer, dans une autre société qui n'est pas la nôtre, que je demande à mes enfants de me frapper avec une badine ou une cuillère, un martinet ou quel que soit l'ustensile de la maison. Voilà. Alors, après seulement, j'aurais pu prier avec eux, j'aurais pu les embrasser à nouveau. Bref, j'aurais pu être réconcilié avec eux, comme dit la Bible. Donc voilà, maintenant, je vous laisse vous faire votre opinion. Est-ce que vous pensez que ça les marquera plus, ça les corrigera plus ou moins qu'un châtiment qu'ils recevraient eux-mêmes? Je vous laisse vous faire votre opinion à ce sujet. Maintenant, est-ce que le souvenir d'un de vos moments de lâcheté ou d'égoïsme ou de honte vous poursuit parfois? Rappelez-vous que Jésus a encaissé les coups pour ça, pour ce moment-là. Il a payé pour tous nos péchés. Il nous invite maintenant à accepter son pardon et à lui dévouer le reste de nos vies. C'est pour ça qu'il est mort, c'est le cœur de l'évangile. Il voulait qu'on connaisse la grandeur de l'amour de son Père. Je vais citer un passage en 1 Pierre qui résume ça. Premier épître de Pierre au chapitre 2 au verset 24, il est écrit « Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Voilà, donc là, on trouve le vocabulaire du sacrifice de substitution, du sacrifice expiatoire. Et c'est le langage qu'on retrouve aussi dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique notamment. Alors là, c'était l'animal à sacrifier qui enlève le péché de celui qui offre l'animal en sacrifice pour qu'il n'ait plus à le porter lui-même, ce péché. Donc, l'animal ne meurt pas seulement parce que celui qui offre le péché, le sacrifice a péché, mais il meurt à sa place. Et finalement, il lui arrive ce qui serait arrivé à celui qui rend le sacrifice. Alors, il y a d'autres endroits dans la Bible où on retrouve cette idée de porter un fardeau pour soulager quelqu'un d'autre, ou en tout cas à la place de quelqu'un d'autre. Dans Ésaïe, toujours au chapitre 46, on peut lire « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Et aussi dans les Lamentations de Jérémie, au chapitre 5, il est écrit: Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Donc on voit encore cette idée de souffrir à cause de la faute d'un autre. Et donc c'est la même idée que Jésus, qui ne souffre pas avec son peuple, mais qui souffre pour son peuple. Et alors là, ce qui est souligné par Ésaïe, c'est que finalement, le fait de porter les faiblesses et les maladies, ça a donné au peuple une piètre opinion du serviteur. Et c'est justement tout ce qui est paradoxal, c'est que la chose même qui fait paraître Jésus au mieux pas important, voire pire, c'est la chose même pour laquelle nous devrions l'honorer. Parce que c'est pour notre bien à nous qu'il l'a enduré. Et alors nous, quand nous frappons, nous blessons les autres, mais Dieu, lui, quand il frappe, il guérit les autres. Et le terme « frapper » dans ce contexte, ça peut être utilisé aussi, par exemple, pour la lèpre, ou plus généralement pour un malheur qui arrive subitement. Et dans le cas de Jésus, comme à chaque fois, les gens ont réagi quand ils ont vu quelqu'un affligé d'une maladie ou d'un malheur terrible, ils se sont demandé qu'est-ce qu'il avait bien pu faire pour mériter ça de la part de Dieu. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans Job, dans le livre de Job, pour qui ses soi-disant amis pensaient qu'il avait sûrement dû faire quelque chose pour mériter sa souffrance. Et Jésus, il est regardé exactement de la même façon, comme souffrant justement. Alors qu'en fait, c'est pour une cause plus élevée et beaucoup plus noble qu'il devait supporter ce fardeau. C'est pour ceux qui méritaient, eux, ces terribles conséquences pour leur péché. Donc c'était pour nous. Que Jésus soit béni pour avoir vécu dans ce corps de chair et dans ce monde corrompu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, juste après les attentats de janvier, là, sous la statue de Marianne, c'était, je crois, place de la République. Les gens avaient déposé tellement de bouquets, de fleurs, de bougies, de photos, de drapeaux, que le socle de la statue disparaissait quasiment totalement sous ce mémorial un peu improvisé. Et fait étonnant, en France, où l'espace public est plutôt à personne qu'à tout le monde, les services de la ville n'ont même pas eu à intervenir pour entretenir le mémorial, enlever les fleurs pourries, etc. C'est les gens qui s'en occupaient, en fait, eux-mêmes. C'était bien que le mémorial ait été improvisé. Alors, on perd tous, un jour ou l'autre, un proche. J'ai envie de dire, je vous souhaite que ça vous arrive. Parce que sinon, ça veut dire que c'est vous qui partirez les premiers. Donc, c'est pas forcément un bon signe. Et alors, quand ça nous arrive, on reste souvent bien longtemps avec nos émotions, nos regrets et notre deuil. Et alors, ma question, c'est: est-ce qu'il y a un mémorial ou un endroit où nous pouvons déposer nos peines et trouver la guérison pour les blessures de notre vie? Eh bien, le Messie, Jésus, c'est celui qui a porté notre deuil et nos chagrins. Et quand on reçoit Jésus comme notre Sauveur, on peut aussi le découvrir comme celui qui enlève notre fardeau et qui enlève la tristesse de nos épaules. On peut apporter nos prières à Jésus, l'homme qui a vécu ses chagrins. Parce qu'au pied de la croix, il y a l'aide, il y a la guérison pour les plus grandes douleurs de notre cœur. Et ce que je veux dire, c'est que c'est justement le pied de la croix, c'est justement le mémorial. C'est justement cet endroit où vous pouvez apporter vos chagrins. Le verset 5 de ce passage, c'est une image étonnante de la souffrance spirituelle et physique que notre Sauveur a endurée pour nous. Je vous le relis si vous voulez. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, vous avez noté, ça commence par « mais ». Donc ça insiste justement sur le contraste entre ce que le peuple avait cru et ce qui en était vraiment. L'homme n'a pas été puni pour ses péchés, à lui, mais à cause de notre rébellion. Il a été brisé à cause de notre fausseté. Donc là, on voit que par rapport au verset précédent, le verset 4 sur lequel on s'est arrêté tout à l'heure, au verset 5, le vocabulaire change. On passe de la souffrance en général vraiment au vocabulaire de la blessure. Donc à l'époque d'Ésaïe, les blessés, ils mouraient fréquemment vu l'état de la médecine à l'époque. Et donc le terme, le brisé, lui, signifie que soit donc cassé en plusieurs morceaux, voire réduit en miettes. Enfin brisé, quoi. Vous voyez bien ce que ça peut vouloir dire. On retrouve d'ailleurs en Job, toujours au chapitre 22, cette image. Tu as renvoyé les veuves à vide et les bras des orphelins ont été brisés. Et Jésus a été écrasé lui aussi, ou brisé, sous le poids de nos péchés et le jugement de Dieu qu'il ait condamné nos péchés. Le péché tue et notre péché a tué Jésus. La raison de sa souffrance, c'est vraiment notre transgression de la loi divine et nos iniquités. Donc là, Jésus, il n'a pas seulement fait preuve de sympathie ou de compassion, il a vraiment porté la conséquence de notre condamnation éternelle pour notre péché. Hein. C'est pas comme si il avait tapoté dans le dos pour nous dire ça va aller. C'est aller beaucoup plus loin. Donc finalement, la sévérité de la sanction qui a été subie, qui a été appliquée, ça indique bien ce que Dieu peut penser de notre rébellion et de notre déviance. En général, on essaie d'expliquer nos erreurs et nos imperfections. Hein. Certaines fois, on s'explique tellement bien que finalement, nos erreurs deviennent presque des qualités. Mais finalement, nos excuses, nos explications n'intéressent pas Dieu. Notre refus de nous plier aux règles de Dieu et notre insistance à nous faire notre propre petit manuel de conduite, ce manuel qui nous autorise bien sûr à céder à nos convoitises, ne sont pas juste des petites erreurs ou des petits défauts aux yeux de Dieu. Ce sont des motifs de mort. Et à moins que quelqu'un accepte de prendre ce châtiment à notre place, eh bien ces choses-là nous feront condamner. La bonne nouvelle, c'est que quelqu'un a accepté de prendre ce châtiment à notre place. C'est justement la bonne nouvelle de l'Évangile. Quelqu'un qui a pris sur lui la conséquence de notre rébellion et qui nous a accordé un laissez-passer pour le royaume de Dieu. Je vais lire toujours dans 1 Pierre au chapitre 2 au verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Jésus a été livré pour nos péchés, pour que nous puissions en être délivrés. Donc c'est l'image du rebelle dont le dos est couvert de marques de fouet sanglantes. Vous savez, le fouet romain, là, c'était celui avec les petits clous là, pour être sûr que ça fasse bien mal. Et donc finalement, ce rebelle, d'après son comportement, on pourrait dire qu'il en mériterait encore. Et la question, c'est juste, est-ce qu'il pourra s'en remettre si on en remet encore? Donc finalement, la seule chance qu'il survive, c'est que quelqu'un reçoive les coups à sa place. Donc, là, en l'occurrence, le rebelle étant une image pour l'humanité. Mais ça nécessiterait que le remplaçant déjà soit capable d'endurer les coups physiquement. Et ça voudrait impliquer que lui-même, il ne mérite pas sa part de coup. Alors, est-ce que c'est humainement possible? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour notre passé? Est-ce qu'on peut juste nettoyer les blessures et désinfecter? Non. On ne peut pas réécrire de nouveaux mots sur les anciens, comme font les fraudeurs, là, pour encaisser l'échec à leur ordre, là, en surchargeant l'ordre, voilà, ça reste de l'escroquerie, et finalement, le feutre n'effacera pas ce qui est écrit au-dessous. Il faut que, finalement, quelqu'un vienne pour effacer l'ardoise, et pour remettre les compteurs à zéro. Et quelqu'un doit accepter, et quelqu'un doit être capable de prendre la maladie, et de lui-même laisser sa santé en échange, de prendre les coups, et la douleur est de laisser la richesse et le bien-être. Et le pardon de Dieu ne peut intervenir qu'après, qu'une fois que la justice est satisfaite. La justice terrestre, elle, ne doit pas être ignorée. C'est quelque chose de sérieux, mais c'est vraiment pas aussi sérieux que la justice divine qui, elle, est punie de la séparation de Dieu. Et notez bien qu'en général, les sacrifices ne réduisent pas les effets terrestres du péché. Alors, à quoi ils servent, ces sacrifices? Mais ils servent pour les conséquences spirituelles du péché. Parce qu'une âme qui pêche va mourir, et pas seulement spirituellement d'ailleurs. C'est écrit dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 18, hein, c'est écrit comme ça, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et aussi, parce qu'il n'y a pas de pardon des péchés en dehors du sang versé. Mais alors le sang versé, finalement, on peut se demander, est-ce qu'un mouton peut remplacer un homme ou est-ce qu'une chèvre pourrait mourir pour une femme? C'est un peu l'idée dans l'Ancien Testament. Mais la réponse, c'est non. On peut lire par exemple dans le livre de Michée au chapitre 6, au verset 6. Donc je lis. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà, ça c'est une. Là, ce qui est dit, c'est que les sacrifices, finalement, c'est pas le cœur de ce qui est attendu de nous. C'est même pas ce qui est attendu de nous. Donc finalement, à quoi ça sert? Eh bien, c'est la purification des péchés par substitution. Et c'est de ça que Jean-Baptiste parlait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jean-Baptiste, il présentait Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Alors à ce sujet, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir le tableau de Rembrandt, la crucifixion. Alors, donc logiquement, l'attention est attirée, vous savez, avec les jeux de lumière extraordinaires que des peintres hollandais de l'époque attiraient vers la croix, vers Jésus. Et puis quand on regarde la foule autour de Jésus, on voit le visage des gens qui sont impliqués dans ce crime horrible consistant à crucifier le Fils de Dieu. Et finalement, si on se décale vers le bord, vers la gauche du tableau, vous pourrez aller voir ça tout à l'heure si vous voulez, on aperçoit un autre personnage qui est presque caché dans l'ombre. Et en fait, Rembrandt expliquait qu'il s'agissait d'un autoportrait de Rembrandt. Qui reconnaissait en faisant ça que par ses péchés, il était en partie responsable du fait que Jésus a été cloué là. Et si vous regardez de près dans cette peinture, vous verrez que dans l'ombre, vous êtes là, vous aussi, parce que Jésus a aussi porté vos péchés. Certains ont dit que la croix révélait la haine des hommes pour Dieu et... À l'inverse, l'amour de Dieu pour les hommes. Et au verset 6 maintenant d'Ésaïe 53, on explique la raison et la nécessité de toute la souffrance dont il est parlé. Alors je vous relis le verset 6, il est écrit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Donc chacun, tous sans exception, ceux qui ont vécu, ceux qui vivent et ceux qui vivront, tous. Et cette image qui est assez triste montre notre éloignement de Dieu. C'est une image de rébellion égoïste qui est dépeinte avec des moutons vagabonds. Alors, les moutons sont connus pour être assez placides, voire indifférents et assez peu conscients de ce qui les entoure. On va dire que leurs pensées sont très concentrées sur la prochaine touffe d'herbe et c'est à peu près tout. Voilà. Donc, et quand ils cherchent leur nourriture, ils se dispersent dans toutes les directions. Donc, finalement, c'est ce qui les rend assez enclins à se perdre de touffe d'herbe en touffe d'herbe. Et alors finalement, nous, on est aussi assez enclin à nous disperser et à nous perdre, je dirais même encore plus que les moutons, parce que on n'est pas concentré, nous, sur la prochaine touffe d'herbe, mais notre égoïsme, notre manque de discernement, nos mauvaises décisions, nos convoitises, nos tentations, nos ambitions et encore beaucoup d'autres choses provoquent notre éloignement et notre isolement. Alors comment est-ce que cet isolement et cet éloignement ont-ils pu arriver? Ben, c'était en vivant la vie que nous avions décidée et non pas en vivant selon la parole de Dieu, comme il nous est demandé. Donc nous, les humains, comme des moutons, finalement, on n'a pas vraiment l'air de se rendre compte des conséquences de nos choix. Et comme eux, on ne peut pas non plus se défendre contre les conséquences de nos choix. Imaginez-vous, par exemple, en train de lire à la lumière de la présence de Dieu, donc le récit de toutes vos pensées, de toutes vos paroles, et imaginez ensuite qu'il soit mesuré à l'aune de la parole de Dieu. Comment, à quelle distance pensez-vous de la gloire de Dieu on pourra mesurer que nous avons dérivé? Alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous ramener dans sa bergerie divine? Eh bien, il a envoyé le Messie pour nous ramener à lui. Donc, le berger en chef, donnant sa propre vie pour les moutons rebelles. Et vous aurez remarqué que le verset, il commence par nous tous et il se termine par nous tous. Alors, voilà qui ferait quelque chose d'aussi incroyable? À part Dieu. Dieu, en Ésaïe 53, il écarte un petit peu le rideau du temps pour permettre aux contemporains d'Ésaïe de regarder par avance les souffrances du futur Messie et le pardon qui est aussi rendu disponible pour nous tous. Et maintenant, on connaît le Messie aujourd'hui, au XXIe siècle, qui était promis, qui est venu et qui est mort pour les péchés. Et on sait qu'il l'a fait pour nous ramener dans le troupeau de Dieu. Maintenant, avez-vous donné votre vie à Jésus, le bon berger? Dans l'évangile de Jean, on peut lire au chapitre 10, un passage encore bien connu, encore un hit. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc ma question aujourd'hui c'est, est-ce que vous êtes toujours comme un mouton qui erre sur son propre chemin? Alors, une petite anecdote, un jour des Européens qui se déplaçaient dans une prairie de la colonie où ils venaient d'atterrir, ont découvert avec une certaine horreur des flammes qui, attisées par un fort vent, se dirigeaient assez vite vers eux. Et donc, comme les flammes se rapprochaient, alors toute la troupe a été assez étonnée de voir un des colons prendre une torche et enflammer la prairie en aval de là où il se trouvait par rapport au feu et au vent. Donc, l'herbe sèche sur l'endroit où il a mis le feu a rapidement brûlé. Et a laissé un espace totalement carbonisé et tout sec. Et alors l'homme a dit aux autres, ben, allez vous mettre maintenant sur l'endroit qui vient de brûler. Et là, une fois qu'ils étaient sur cet endroit, ils ont pu regarder les flammes arriver jusqu'à la surface déjà brûlée et s'arrêter là, parce qu'il n'y avait plus rien à brûler. Ils étaient en sécurité et l'incendie est passé de chaque côté d'eux. Ce que je veux vous dire, c'est que le feu du jugement de Dieu va venir du ciel dans un monde corrompu, mais Dieu a prévu déjà pour son peuple un endroit qui est déjà consumé. Sur la croix, Jésus a été consumé par le feu de la justice de Dieu, et nous, maintenant, nous sommes en sécurité à cet endroit, sur cet espace, où tout a déjà été consumé et où plus rien ne brûlera. Remercions Dieu d'avoir fourni un tel endroit. Et assurons-nous de nous y mettre bien en sûreté.